Probablement. Probablement, mais nous, on fait aussi un militantisme pour proposer de rester. Mais, en fait, on ne sait pas trop, mais on est situé à un endroit où, normalement, dans le futur, ça sera une centrale de mobilité. Qu'est-ce qu'une centrale de mobilité? C'est un parking silo avec au pied des arrêts de bus et des Vélib. Voilà, c'est parce que l'écoquartier est piéton. Du coup, on a le droit de circuler en voiture pour aller déposer des choses, mais on ne peut pas se garer dans l'écoquartier. Du coup, nous, on est situé au mauvais endroit. On est sous le parking silo parce qu'on ne peut pas mettre des parkings en sous-sol puisqu'on est sur une île. Du coup, il y a de l'eau qui remonte. Mais voilà. Mais on essaye de proposer soit de décaler un tout petit peu le parking pour pouvoir rester, ou alors de se mettre sur le toit du parking. Parce que du coup, ils vont quand même devoir faire une hélice pour monter. Du coup, il suffit juste de faire en sorte que l'hélice puisse porter des gros camions. Et une fois que les gros camions ils passent, là, on peut travailler sur le toit.
Après, la mobilité dans ce cadre de projet, elle est aussi... Enfin, on imagine toujours où aller après. Enfin, il y a toujours cette question-là qui.
La pérennisation des lieux, elle est jamais.
Tout à fait. Ça, c'est le premier projet qu'on fait comme ça, mais on est déjà en train d'en attaquer d'autres, et dans plusieurs endroits. Du coup, on travaille aussi pas mal à Stain, qui est une ville à côté. Et là, on travaille beaucoup sur le réemploi de béton, parce que du coup, on travaille sur des bâtiments. Qui ont été préfabriqués en béton, c'est-à-dire que c'est des blocs, il y avait un chemin de grue avec des rails de chemin de fer, et la grue était sur les rails de chemin de fer, il y avait un endroit où ils avaient mis une centrale à béton, et ils coulaient les trucs, les blocs complets, et ils venaient les poser étage par étage. Et là, nous, on essaie de voir si on ne peut pas récupérer les blocs entiers d'étages. Déjà, on arrive à récupérer les façades complètes. Maintenant, l'idée est d'essayer de récupérer des blocs intérieurs plus complets et de voir si on ne peut pas recréer une architecture avec ça. Et ça, on le travaille avec la régie de quartier. Et toute l'idée sur ce projet-là est de faire monter en compétence la régie de quartier sur le fait qu'elle soit capable, après, elle, de mettre en œuvre ces matériaux de béton et de lui proposer d'avoir, elle, en main, un catalogue de produits en béton avec des certifications et de pouvoir dire là dans ce projet, comme on est en train de faire des démolitions, quand on va refaire le nouvel espace public, ben, il y a une partie de la commande de l'espace public qui sera pris en charge par la régie de quartier, qui du coup elle pourra trouver un modèle économique et vendre sa prestation de savoir-faire sur le travail à partir des matériaux qui seront issus de la démolition. On le fait aussi du côté, on a fait le festival cette année à Bobigny, où on a travaillé sur comment réaliser la préfiguration d'un parc public à plusieurs, et enfin très nombreux, on était 300, un truc comme ça. Et du coup, là-bas, c'est un parc public qui est en face de toute une ancienne zone industrielle qui est coincée entre le canal de l'Ourcq et la Nationale 3. Et juste après la Nationale 3, on a tout un spaghetti de voies ferrées qui vont de la gare de l'Est vers l'Est de la France. Et du coup, toutes ces zones-là, vous imaginez, c'est que des hangars un peu de toutes les époques. Et c'est vraiment le no man's land de la ville, puisque du coup, c'est des endroits où des entreprises périclitent, d'autres reprennent, et ça reste inhabité pendant très longtemps. Et du coup, y avait un parc qui était en face de ça. Nous, on a travaillé sur ce parc-là. Et dans une friche, on a installé un lieu un peu comme celui que je vous ai montré, où là, on est en train de mettre les bases d'un travail avec les collectivités territoriales et toutes les associations qu'on a rencontrées au cours de l'année pour faire le festival, à essayer de créer ensemble un groupement qui soit capable de discuter du coup avec Est Ensemble, qui est du coup la collectivité d'agglomération, et la Sequano, qui est l'aménageur, pour essayer de leur proposer des choses à impulser dans leur nouvel écoquartier, parce que eux, ils se disent juste, nous on veut un nouvel écoquartier, on veut qu'il soit mixte, ils ont déjà un certain nombre de grilles de critères, mais après, comment ces lignes-là peuvent bouger, ça ils sont d'accord, comment on peut faire des choses différemment, ils sont d'accord, mais comment, personne ne sait. Du coup, nous on leur dit, nous on a une idée, on ne sait pas, mais on a une idée. Alors, on va leur propose un premier processus où on essaye de les mettre tous autour de la table pour essayer d'aller plus loin. Alors on leur dit pour tout ce qui est matériaux, réemploi de matériaux, on leur montre un peu patte blanche en disant voilà, bah ça c'est tout le travail qu'on a déjà fait. On est en train de faire des recherches avec l'ADEME, on travaille avec le CSTB. Du coup, tout ça, c'est des gens qui sont dans le bâtiment et qui sont des acteurs importants du bâtiment. L'ADEME, c'est l'agence pour le développement écologique modéré. Moi, je suis mauvais.
Maîtrise de l'énergie.
Et quoi d'autre?
L'agence des déchets et maîtrise de l'énergie.
Ah, merci. L'agence des déchets et maîtrise de l'énergie. Merci.
Et le CSTB,
je connais déjà un peu mieux, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est le fameux écrivain de tous les DTU, du coup, qui est un ancien centre d'État qui, du coup, a régi toutes les normes françaises de après-guerre à aujourd'hui. Voilà. Et du coup, en travaillant avec ces gens-là, quand on discute avec des collectivités territoriales, d'un coup, ça offre un peu de poids à l'association pour essayer de proposer des processus un peu différents. Après, ils ne sont pas toujours... voilà, c'est long, quoi. Voilà. Les projets sont longs, du coup, ça va être long.
Moi, j'ai une question sur le changement d'échelle des alternatives que vous proposez, que ce soit, du coup, les matériaux ou le réemploi, à quel point ça peut changer d'échelle pour devenir la norme, même s'il y a la contrainte légale derrière qui aujourd'hui bloque. Mais concrètement, est-ce que ça serait possible quoi, que...
Pour l'instant, le changement d'échelle, il est compliqué économiquement, parce qu'en fait, les processus qu'on met en place, s'ils sont dans un cadre classique et normé, coûtent très cher, en fait.
Ouais, en partie, ouais.
Donc là, nous, on est plus dans l'expérimentation, dans la pédagogie, dans montrer que ça peut fonctionner, parce qu'en fait, personne ne... Enfin, avant, ça n'existait pas, en fait, cette démarche-là. Et dans le cadre du pétrole, du tout pétrole, etc., effectivement, économiquement, le changement d'échelle est quand même compliqué. Sauf que, du coup, il y a quand même... cette perspective-là des villes en transition, du pic du pétrole, etc., qui, en fait, peut rendre ces alternatives économiquement viables. Mais effectivement...
Actuellement, c'est de l'ordre de l'expérimentation. Par contre, on fait, là, ce que je vous ai présenté, c'était le côté expérimental, mais on fait aussi de la réponse à appel d'offres.
Oui.
Et là, pour le coup, il faut être concurrentiel et on est capable de répondre de manière concurrentielle dans ces projets-là. Bon, ça reste expérimental parce que du coup, nous, on va toujours proposer le travail sur une partie expérimentale du réemploi, mais on est capable de décrire dans les CCTP, le cahier des charges et des clauses techniques et particulières, c'est ce qui régit les contrats de commande publique. Du coup, pour les démolitions, on est capable de faire des descriptions d'articles pour qu'il n'y ait pas de surcoût à la démolition sur le fait de récupérer des matériaux et d'être capable de demander à ce que les démolitions soient faites avec un certain nombre de méthodes. Après, on sait que si on ne veut pas qu'il y ait de surcoût à cette démolition, on va obtenir des matériaux dans des mauvais états et du coup on pourra proposer qu'une certaine gamme de réutilisation. Voilà. Si on sait que les démolitions peuvent se faire de manière très très fine, hein. Faut imaginer quand on est en train de travailler entre deux immeubles classés, les démolisseurs quand ils travaillent au milieu des deux, ils sont capables d'avoir des machines avec des petits coussinets d'air et tout, des systèmes pour récupérer des trucs vraiment sans qu'il y ait de vibration, et on pourrait imaginer récupérer des matériaux vraiment tels quels. Après, ça engendre un surcoût parce qu'effectivement, il faut des machines et des conducteurs un peu plus spécialisés et ça prendra plus de temps. Mais c'est des coûts qu'on est capable de calculer et de voir. Pour l'instant, ce qu'on n'est pas capable de calculer correctement, c'est la réfection des matériaux. Comment on retape les matériaux pour les remettre... Parce qu'actuellement, on a un surcoût à ça. C'est que, par exemple, toutes les associations d'insertion avec lesquelles on travaille, on travaille avec des gens qui sont du coup en insertion. Du coup, alors, ils ne coûtent pas grand-chose parce qu'ils sont en insertion. Du coup, c'est des gens dont le salaire est aidé par l'État et tout ça. Mais on finit quand même par avoir un coût relativement important. Parce que moi, je vais être présent pour expliquer comment transformer ces matériaux et je vais faire un gros travail d'éducation et de sensibilisation et de montrer des savoir-faire qui normalement, si eux ils sont rodés, ils n'ont plus besoin que je sois là en surcoût. Et normalement, pareil, eux, comme ils sont en insertion, il y a 3-4 animateurs en plus. Du coup, on peut imaginer que dans d'autres types de structures où les gars ils sont un peu plus autonomes sur le travail, c'est des coûts qui soient différents. Mais du coup, nous, on préfère travailler pour l'instant avec des entreprises d'insertion parce que du coup, leur offrir la possibilité d'être les premiers sur le coup. Et du coup, comme c'est une méthode de travail qu'on va devoir utiliser de plus en plus dans l'avenir, je préfère à l'association, on préfère travailler avec eux qu'avec Bouygues ou j'ai d'autres manières de faire.
Après, pour la mobilisation habitante, nous, on a travaillé là sur le parc de l'Union. Donc, c'est un parc qui fait 15 hectares. Et donc, on a travaillé en association avec une agence de paysage, la Renfrat. Et du coup, on a travaillé sur le parc de 15 hectares avec des habitants. Donc, on arrive aussi quand même à arriver à gagner des concours de paysage classiques en association avec des paysagistes maîtrises d'œuvre. Parce que nous, pour remettre un peu dans le contexte, nous en tant qu'architecte, en fait on n'a pas le droit de s'appeler architecte. Parce que pour être architecte, il faut être inscrit à l'ordre. Et nos structures sont des structures associatives et les associations ne peuvent pas être inscrites à l'ordre des architectes. Parce que les architectes, c'est une profession réglementée. Et donc, on ne peut pas signer des permis de construire, on ne peut pas faire de la maîtrise d'œuvre. Donc, si on veut rentrer dans ce type de commande-là, il faut qu'on s'associe avec des architectes et des paysagistes, qui font aussi le travail qu'ils savent faire. Et nous, on vient avec notre savoir-faire et qui est en fait assez complémentaire. On n'est pas en opposition avec les architectes et les paysagistes, on est vraiment en complémentarité en fait maintenant. Aujourd'hui, on est en complémentarité quand on répond à des appels d'offres, on a vraiment notre compétence notre complémentarité dans ces trucs-là. Donc on peut avoir accès à ces commandes.
Nous, on va le faire en tant que bureau d'études, qui va être soit un bureau d'études techniques et emploi, soit un bureau d'études sur l'économie sociale et circulaire, soit un bureau d'études sur la concertation habitante. Enfin, ça va dépendre des casquettes.
Oui, c'est ça.
Des fois, c'est toutes les casquettes en même temps. Mais pas archi.
Si je comprends bien, en fait, deux des générateurs de savoir-faire. Et là où je comprends la première intervention, c'est que ce savoir-faire sur les matériaux, il peut être utilisable dans plein de situations différentes. Mais là où je comprends moins bien, en fait, le savoir-faire qui concerne votre présentation, c'est parce que finalement, vous, c'est vu que ça part de la description d'un bâtiment précis et du matériau qu'on va trouver là, avec sa forme initiale, etc. Comment est-ce que ce savoir-faire peut finalement s'exporter sur d'autres projets pour vraiment créer finalement une valeur ajoutée au travail que vous faites?
C'est des savoirs techniques qui sont liés à des compétences type taille de pierre. Un gars qui sait tailler de la pierre, il saura tailler du béton, par exemple. Du coup, s'il est capable de transmettre son savoir-faire sur la taille de pierre, celui sur le béton va comprendre aussi. Juste, il va y avoir des trucs qui vont être un petit peu différents, mais soit il va les découvrir sur le tas, soit quelqu'un va lui dire, dans la pierre, on va chercher la faille du lit géologique. Dans le béton, on ne la trouvera pas, cette faille-là. Du coup, on va travailler un petit peu différemment, mais les outils de travail sont les mêmes. Du coup, c'est sur cette compétence-là. Et c'est surtout, en fait, ça... Des territoires en mutation, en ville, il y en a beaucoup, et ça oblige des savoir-faire à rester en ville ou proche de la ville. Et du coup, c'est juste, c'est pas la même échelle. Ouais. Il y en a un qui travaille à l'échelle de l'habitant et l'autre qui va travailler à l'échelle de l'entreprise. Et, mais du coup, elles font partie de notre société aussi. Enfin, les entreprises, c'est pas toujours des trucs. Il y a des entreprises familiales. Non, mais c'est pas toujours méchant, les entreprises. C'est vrai qu'il faut savoir travailler avec eux. Ils font travailler plein de gens. Du coup, il faut leur trouver des. Souvent, les entreprises, ils n'ont pas le temps de faire de la R&D, justement. Enfin, ils sont obligés de tirer sur les prix pour essayer de se battre contre les majors du BTP, ainsi de suite. Enfin, ils n'ont pas le temps. Ils ont un savoir-faire, ils doivent le vendre, et ils ne prennent pas forcément le temps de trouver d'autres méthodes pour le faire. Nous, on a pris le parti pris de faire de la R&D et de trouver des méthodes, et du coup, on le fait avec notre regard d'archi. Et nous, les gens avec qui on veut travailler, c'est pas les majors du BTP, c'est pas encore que des fois de temps en temps ça vient de faire, mais essayer de les sensibiliser à comprendre des trucs. Et c'est pas avec les gros produits industriels, c'est plutôt justement avec l'artisanat et d'être capable de relier une conversation avec des savoirs techniques qui. Peuvent donner chaque bâtiment c'est un prototype de toute manière. Du coup, l'idée est de pouvoir développer l'échelle des prototypes de manière très large. Et c'est les artisans qui peuvent faire ça. Un peu les archis parce qu'ils vont le dessiner, mais c'est les artisans qui vont le mettre en œuvre. Si l'artisan il te dit bah, moi ça je sais pas faire, ah, ça non plus je sais pas faire. Ah, je sais pas faire. Ah, non, je sais pas faire. Bah, mais, au final, après, il y a un moment, si tout le monde ne sait faire qu'une méthode, on fera qu'une méthode. Si on est capable de trouver des manières qu'on assure à notre artisanat du travail en gardant les savoir-faire anciens, on va les garder, ces savoir-faire anciens. On a mis du temps à les acquérir, ça serait con de les bousiller. Du coup, il faut trouver des moyens de les garder et de refaire confiance à ces gens-là. Et du coup, nous, le travail pour ça, c'est de passer par les règles professionnelles, comme pour les biosourcés, et c'est de trouver des méthodes pour que les entreprises puissent faire un certain nombre d'autocontrôles et juger de la qualité des matériaux et de savoir s'ils peuvent le mettre en œuvre ou pas.
C'est vraiment une question de différence d'échelle. Nous, on est sur la capacitation citoyenne très très locale, alors que les Nasta qui sont plus sur la capacitation des artisans vraiment.
Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les méthodes que vous donnez pour susciter et maintenir la participation habitante? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a un intérêt croissant des collectivités locales pour ce genre de notion de réemploi, de plurifonction de l'espace aménagé. Moi, par exemple, j'ai participé aux ateliers pour la réhabilitation du quartier Fishkai à LM. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu hors sol, quoi. Et autant sur le contenu, enfin sur les choses qui étaient proposées, j'étais assez favorable au projet qui se mettait en place. Par contre, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient tombés du ciel et la participation publique pour en dire.
Bah là, pour l'occurrence, Fifkai, c'est qui? C'est Sorelli qui gère. En fait, nous, on n'est pas dans le bas, on est du côté. En fait, quand on arrive, quand on s'adresse à des gens, on arrive sur le côté et on fait des processus longs, donc qui peuvent durer 2-3 ans. De travail avec les habitants sur le quartier en faisant des chantiers. En fait, nous, le chantier, c'est vraiment un de nos outils numéro un, c'est d'être avec les gens, de fabriquer des choses, de mettre la main à la pâte, de se donner le droit à l'erreur, donc construire, faire des petits aménagements, voir si ça fonctionne, les enlever, les remettre autre part, reconstruire quelque chose d'autre.
Préfiguration.
Du coup, être sur la préfiguration. Et par ce biais-là, en fait, on arrive à parler avec des gens qui ne viendraient pas à des réunions, pas à des ateliers, pas à des ateliers maquettes ou des choses comme ça. On est vraiment sur la construction. Et en fait, du coup, ça, on met en valeur aussi les savoir-faire de gens, d'habitants qui sont les voisins de ce lieu-là, qui savent faire quelque chose et qui, en fait, font des échanges de savoir-faire avec leurs voisins. Et du coup, nous, on est plus un vecteur comme ça.
Tu commences avec les enfants ? pour les enfants.
Ouais,
ils en parlent à leurs parents. Et une fois qu'ils ont. Non, mais une concertation classique, tu ne verras pas d'enfants. Et du coup.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Tu arrives à amuser les enfants, tu acceptes un rôle un peu d'animateur social. D'un coup, tu ne vas pas rentrer dans le même discours avec les gens. Tu n'arrives pas, on m'a demandé. Enfin, je viens pour vous poser des questions.
Pédagogique, festif.
Et en fait, voilà, nous, c'est par le ludique. En fait, au début, pendant très longtemps, les gens nous considéraient plus comme des animateurs socioculturels. En fait. Il a fallu qu'on se batte pour dire non, en fait, on est des architectes et ce qu'on fait là, en fait, ça va construire la ville de demain. En fait. On n'est pas juste là pour animer un quartier. Mais en fait, ça prend du temps parce que du coup, on est sur le terrain, on est pendant, je te dis, 2, 3 ans, 4 ans, il y a des projets qui durent longtemps en fait. Parce que la première commande, là on a travaillé à un bon avant que ça change de municipalité, mais là c'était une commande de la ville et là c'était genre travailler sur la cité d'Arcy. Donc c'est une cité, une ancienne cité minière. Mais la commande c'était juste ça en fait. Et donc du coup il a fallu qu'on définisse notre commande, il a fallu qu'on définisse les modalités le processus de mise en œuvre, de réappropriation des espaces publics par les habitants dans ce quartier-là. Et donc ça a commencé par des fêtes, ça a fini, il y avait un terril étété dans le quartier, donc qui avait été coupé pour faire des routes. Et donc on a utilisé ce terril-là comme lieu pour faire une vogue, enfin pas une vogue, une ducasse. Et donc du coup, il y avait une Ducasse avant, il n'y en avait plus, et donc du coup, on a remis une Ducasse sur le terril. Du coup, c'était aussi de changer de point de vue sur ce terril-là, de changer de point de vue sur le quartier, parce que du coup, on était en haut. C'était un lieu qui était utilisé par les enfants ou mésutilisé par les quads, et donc du coup, c'était aussi remettre des gens qui n'étaient pas, parce qu'en fait... des adultes notamment qui n'allaient plus parce que soit il y avait des gosses qui jouaient au foot, soit il y avait des quads, mais qu'en fait ils n'avaient pas forcément l'usage. Et donc voilà, c'était un re... Et ensuite, l'année d'après, on a refait cette Ducasse, mais là pas sur le terrain, mais dans un espace public du quartier. Et donc après, il y a eu un changement de municipalité, donc le projet a dû s'arrêter. Et là, pareil, c'était vraiment un... Et donc ça, jalonné par des aménagements d'espaces publics dans le quartier à chaque fois qu'on en change. Et voilà, et puis ça prend aussi la forme de workshop où on reste pendant une semaine, deux semaines, trois semaines en chantier, où on est là tous les jours, on habite dans une tente et on est à l'accueil des gens. Donc ça prend ces formes-là. Effectivement, les concertations venues d'en haut, type Fifkai, ou encore mieux Saint-Sauveur, avec faites une ville en Lego, tu vois, par exemple. Bah, je sais pas si vous avez vu ça, mais genre faire une ville en Lego, ludiquement c'est très bien, mais en fait, genre du coup les gens ils font des immeubles, ils prennent des photos, et puis en fait ça sert à rien, parce qu'en fait c'est pas vrai, ça existera jamais, donc en fait c'est mentir aussi au long. Et donc c'est faire du ludique, mais du pseudo-ludique qui sert à rien, qui du coup là c'est vraiment l'animation socioculturelle, mais du coup fait par un aménageur. Donc en fait c'est vraiment noyer le poisson. Voilà. Ouais.
Quels sont les profils en général des personnes qui sont intéressées pour venir au chantier, aux ateliers participatifs? Est-ce que c'est principalement des personnes souvent qui sont déjà sensibles à des questions, à des pratiques alternatives, ou est-ce que ça...
Ça dépend du lieu où on est. Là, à Paris, tu vois, sur la petite ceinture, y a pas mal de bobos qui viennent et tout. On fait des bobos classe moyenne supérieure. Mais en fait, tu as aussi tous les promeneurs punk qui se promènent et qui du coup s'arrêtent et qui du coup sont intéressés par la démarche. Machin, il y a les petites vieilles du quartier qui promènent leur chien et qui nous disent « Ah, bah, ce serait bien qu'on fasse un cani-parc ici. » Bah, du coup, là, c'est ça, on leur dit non, puis après, ils ne sont pas contents. À Hénin-Beaumont, c'est pas du tout, c'est plus des gens, beaucoup de chômeurs, en fait, des gens qui n'ont pas de travail depuis des générations. On a fait tout un travail avec des habitants, avec un photographe, à aller interviewer les gens là-bas, et on interviewait des gens, ils avaient le portrait de Marine Le Pen, tu vois, dans leur salon. Mais ils venaient tous les jours nous filer la main, à bouffer, à faire le chantier, enfin, tu vois. Ça dépend vraiment des contextes urbains, en fait. Même à FIV, là, on est entre des classes moyennes qui commencent à arriver à FIV et puis du très populaire au chômage et qui, du coup, il y a une mixité comme ça qui se crée. C'est vraiment... ça dépend du site.
Oui, je ne sais pas si c'est un effet de présentation, mais en tout cas, vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire que finalement, même si globalement, on a l'impression que vous faites un petit peu la même chose, les deux présentations sont quand même assez différentes. Effectivement, les publics ne sont pas les mêmes. Enfin, en tout cas, ce que vous travaillez n'est pas... Donc, vous, c'est l'entreprise, au sens large, ou c'est les habitants, ou je sais pas...
Voilà. Les lieux.
Les gens, comme bien. Voilà. Mais ce que vous venez de dire, c'est on est des architectes, on n'est pas simplement des animateurs socioculturels qui faisons la ville en Lego. Mais du coup, quelle est la portée politique finalement de votre travail? Comment vous la considérez? Si on prend en compte justement cette différence que vous avez évoquée, c'est-à-dire que si vous attaquez à la dimension industrielle, au marché, à la réglementation, etc., c'est quand même pas tout à fait la même chose que de s'attaquer à la citoyenneté, au quartier, etc. Donc c'est pas les mêmes objets, c'est pas les mêmes publics. C'est voilà. Donc finalement, la portée politique, elle est différente aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Bah, en tout cas, pour notre part, on s'adresse aux citoyens, en fait. Enfin, pour notre part, mais c'est ce qu'on disait. Ça dépend. C'est la même pratique, sauf à des échelles différentes, en fait. Mais nous, le public, c'est ça, c'est le citoyen, c'est l'appropriation citoyenne de son cadre de vie. En fait, nous, c'est ça notre fer de lance, si je puis dire. Comme on parlait d'autogestion tout à l'heure, donc c'est un peu notre utopie politique, que des gens, des communautés d'habitants d'un quartier se prennent en main pour pouvoir gérer collectivement leur quartier, l'aménager collectivement et avoir des décisions politiques sur l'aménagement de leur quartier.
Parce que ça... J'ai l'impression que là, on s'adresse aussi pas mal à nos pairs sur tout le volet recherche, et c'est pas mal ce que je vous ai présenté là sur le volet recherche et emploi. Mais ça vient aussi du fait que quand on est avec des habitants et des citoyens, pour eux, le réemploi, c'est quelque chose de logique. Ils ne comprennent pas qu'il n'y en ait pas dans le bâtiment. Du coup, c'est vrai qu'on est très orienté sérail. On parle au monde du bâtiment, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi une manière de faire changer les choses. Si on n'était pas capable de faire changer le monde du bâtiment, on évoluerait difficilement. Et du coup, on fait aussi bien de la sensibilisation habitante en expliquant l'intérêt du réemploi dans les quartiers où on s'implante pour faire de la récupération de matériaux sur des démolitions, que de la sensibilisation des entreprises au même moment. Les entreprises ne savent pas non plus, du coup, quand ils nous voient débarquer, le poteau en béton, comme ça, les poteaux, tous les poteaux ici, tous les mêmes. Allez, pourquoi vous faites ça, quoi? Et pareil, les habitants. Du coup, il y a un moment, les habitants, on leur dit, c'est quand même dans le monde de la construction, c'est un peu le monde qui génère le plus de déchets. Du coup, on essaie de trouver une manière de changer ça. Et donc, comme ces lieux-là où on fait intervenir l'entreprise et on fait venir les habitants, en fait, du coup, on a aussi des processus festifs et d'accueil socioculturel dans ces lieux qu'on met attenant au chantier. On a, par exemple, tous les mercredis, on a des classes qui viennent et tout. Et du coup, on essaye de démocratiser le monde de la construction, qui n'est pas qu'un endroit derrière des barrières où on ne peut pas aller, et du coup de trouver comment expliquer aux gens comment on pourrait changer la donne en construction. Et du coup, si ces gens-là, ils sont sensibilisés, après, ils vont sensibiliser leurs élus, qui vont sensibiliser la maîtrise d'ouvrage, qui vont descendre sur les entreprises. Enfin, et on a décidé de s'attaquer à toute la boucle. c'est aider pas juste le citoyen. Hein, parce qu'en fait, du coup, le citoyen, ça marche, mais c'est pas toujours assez rapide, quoi. Du coup, on se dit, ok, ben, on va attaquer toute la boucle complète. Et du coup, là, on essaye de prendre tout le monde en étau. Mais on a un petit étau.